Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public, un public venu très nombreux ce soir au Théâtre de l'Alliance Française pour un masque et la plume consacré à l'actualité du cinéma avec Charlotte Lipinska de Vogue à Vacaen de Frenchmania, Nicolas Chaler de l'Obs et Jean-Marc Lalanne, le patron des Inrecuptibles versions mensuelles depuis quelques mois. Pour notre plaisir, on parle ce soir de France, de Bruno Dumont, de Chers Camarades, de Konchalovsky, de Laila In Haïfa, d'Amos Gitaï, d'Un Triomphe, d'Emmanuel Courcol, de La Terre des Hommes, de Naël Marandin et d'une histoire d'amour et de désir de Leïla Bouzid. Dans le courrier de la semaine, je vous l'avais annoncé il y a 15 jours, voici une petite partie du courrier très colérique de nos auditrices et auditeurs à propos de Benedetta de Paul Verhoeven. Gabriel Klesewski de Béthune juge que Verhoeven fait de la provocation anticléricale vieillotte en confiant un film kitsch au département porno-soft de FR3 Limousin. Pour Olivier Blondel, il s'agit d'une daube intersidérale, un film laid, creux, et qui recycle les fantasmes recyclés d'un vieux dégueulasse. Pour Loïc Boissel d'Ombreval, qui a quitté la salle avant la fin, Benedetta est grotesque et vulgaire. Christelle Bizio remercie beaucoup Pierre Murat, que n'ai-je écouté Le Masque avant d'aller voir le film le plus inepte qu'il m'ait été donné de voir. Oh non, là, depuis longtemps, 2h06 de ma vie perdue, ça a été ça le vrai supplice. Isabelle de Haute-Savoie s'est senti moins seul, toujours grâce à Pierrot. Il a vu la même daube que moi. Ouf, grand merci, cher Masque, d'exister pour le plus grand bonheur de ma santé culturelle. Tandis que, au contraire, Nathan, qui a 19 ans, trouve Virginie Efira extraordinaire à la hauteur de son personnage mystérieux et mystique, et que Xavier Affre, d'Apieto en Corse, parle d'un bloc magnifique et très second degré qui ne se prend pas au sérieux et qui pourtant me paraît pertinent sur le pouvoir de la religion. Voilà pourquoi tu opines, Ava, parce que tu es d'accord avec
moi. Je suis d'accord avec
Bien sûr, et puis Nicolas, n'en parlons pas, il adore Benedetta. Et puis, Aro, unanime sur Le Masque et la Plume, qui a osé démolir Kaamelott d'Alexandre Astier. Je ne lirai pas tout le courrier, l'émission y passerait. Donc, l'essentiel, Nathalie, Sébastien, Lanaise et leurs enfants sont atterrés par les critiques assassines du film d'Astier. Comment peut-on faire preuve d'un tel mépris à propos du travail de quelqu'un d'aussi brillant dans tous les domaines artistiques, puisque je vous rappelle qu'il a tout fait dans le film, la musique, le scénario bien sûr, la réalisation, il joue et il fait l'ouvreuse. Pour Marie-Claire de Clermont-Ferrand, ce film s'adresse à ceux qui connaissent et aiment la série, comme des millions de parents d'enfants ou d'ados qui en parlaient dans les cours de récré. Selon Marion Cibla, seul Nicolas Chaler a semblé saisir le style de cet auteur, l'absurde jusqu'à la folie. Décidément, tu aimes tout, toi, hein, Kaamelott, Benedetta.
Non, je dirais pas que j'ai aimé, j'ai reconnu une ambition.
Isabelle Doucet de Strasbourg est perplexe. Cher Masque, pourquoi avez-vous critiqué Kaamelott si vous n'y connaissez rien? Ce film est un cadeau pour les fans, c'est tout. D'accord, nous dit Paul Debrême, la construction est un foutoir et on ne rit presque pas. Ce film cache pourtant une source de plaisir que vos critiques du Masque n'ont pas identifié, celui de retrouver notre chère galerie de personnages 10 ans après. Mais, pour Jérôme Duvivier de Lyon, en passant au long métrage, Astier se prend au sérieux, détruisant l'ADN de sa création. Résultat, une boursouflure indigeste, même plus drôle, à des années-lumière de la série. Ou encore Mathieu El Almaoui de Bastia en Corse. Mon très cher Masque, je n'ai pu échapper à Kaamelott à cause de mon compagnon qui est fan de la série. Quelle bilvesée nauséabonde à destination des gueux. Et pour finir, ce message émouvant que nous adresse Olivier Poulain du Havre sur un tout autre sujet, autre film. Et j'en ai reçu beaucoup dans le même sens. Bonsoir, cher Masque. Je vous écoute parler de Drive My Car à peine une heure après ma sortie de la salle au Havre, donc, en pleurant, en continuant de pleurer. La justesse de vos mots, lorsqu'on doute de soi, conforte et rassure. Tout n'est pas perdu, nous ne sommes pas seuls. Nous allons devoir vivre et nous allons réussir l'immense beauté de ce film de Hamaguchi et sa richesse y participent sensiblement. Merci. Voilà, on avait gagné nos auditeurs avec la loi de Téhéran cet été, avec beaucoup, beaucoup de fans qui nous ont écrit. Et bien là, c'est pareil avec ce film magnifique de Hamaguchi. Allez, on commence avec un triomphe, parce qu'il fait de très bonnes entrées depuis mercredi. Le deuxième film après Cessez-le-feu de l'acteur-réalisateur Emmanuel Courcol, avec Admira dans le rôle inhabituel d'un comédien qui, faute de cachet, accepte d'animer un atelier théâtre dans une prison, et aux cinq détenus, d'abord réticents, qui acceptent de jouer le jeu au sens propre, Étienne propose de monter avec eux en attendant Godot de Beckett. Comprenez, évidemment, en attendant la libération. La directrice de la prison, qui est jouée par Marina Hunt, je crois qu'elle avait tout joué, mais pas encore une fois, le rôle de la taulière. Elle est un peu sceptique, mais Patrick, Alex, Kamel, Dylan, Moussa se révèlent d'étonnants interprètes, d'abord joués derrière les barreaux. La pièce est présentée de ville en ville lors d'une tournée, d'où le titre, triomphale, qui doit se terminer. Et là, c'est assez crédible, hein. Charlotte connaît comme moi le lieu, au théâtre de l'Odéon à Paris, devant un parterre de notables, c'est-à-dire il y a les ministres, il y a tous les représentants des institutions judiciaires. Alors, je n'en dirai pas plus sur le retournement de cette ultime représentation. Le plus incroyable, c'est qu'évidemment, cette histoire, elle est vraie, elle est inspirée d'une histoire qui a eu lieu en Suède. Je voudrais juste quand même citer, sans vous révéler la fin, ce que Beckett avait dit au metteur en scène suédois, à l'origine,
Ian Johnson,
qui lui avait raconté donc la vraie histoire. Il avait dit, c'est ce qui pouvait arriver de mieux à ma pièce depuis que je l'ai écrite.
Ah, c'est beau.
Sam, le vieux wow. Sam. Charlotte.
Ben moi, je trouve que c'est pas tous les jours qu'on peut voir un film d'auteur et en même temps populaire, grand public, qui prend pas les spectateurs pour des idiots et avec quand même des gros morceaux de Beckett dedans.
Je suis bien d'accord avec toi.
Ce qui est quand même pas
même
si facile. Absolument, on voit aussi sa photo. Alors, c'est vrai que des expériences de théâtre en prison avec des détenus de longue peine, on en connaît beaucoup. Olivier Py en fait à Avignon, mais il y avait eu l'Iliade aussi de Luca Giacomoni qui avait été un grand succès à Paris. Donc, l'espèce de révélation de ces personnalités sur scène est assez émouvante. On y a assisté nous-mêmes avec donc ces vraies histoires. Et là, cette transposition de ce fait divers suédois, dont évidemment on ne révélera pas l'événement final, moi je la trouve non seulement crédible, mais même assez touchante. D'abord, le casting.
Elle est crédible parce qu'elle est vraie aussi. Hein.
Voilà, parce qu'elle est vraie. Oui, mais aucun scénariste n'aurait osé écrire un truc pareil. Quand même, il y a vraiment que la vie qui
la
peut
voilà,
vraiment nous réserver ce type de surprise. Moi, je trouve que tout tient beaucoup sur le casting. C'est vrai que Kadmerad, moi, je l'ai vraiment, je le retrouve un peu comme Baron Noir. Il est très très investi, il est convaincu par son rôle, avec
un
rôle
final où il est même presque parfois un peu impressionnant.
Mais absolument. Et puis j'aime que le film n'enjolive rien du tout. C'est-à-dire, c'est pas le monde des bisounours. Lui-même, ce rôle de, je sens Jean-Marc Ricard à la droite. Le film évite l'écueil des bons sentiments, que ce personnage de comédien qui est quand même un peu frustré, qui bosse pas, il se lance dans cette aventure pas du tout par générosité ou par altruisme, hein, mais c'est presque par défi par rapport à des metteurs en scène de théâtre ou bref à sa propre carrière, et il va se prendre au jeu de mener cet atelier là. On peut citer quand même très rapidement David Ayala, Pierre Lottin,
je vais
et
tous
Sochan
les citer parce que
Kames,
formidable.
David
ils sont formidables.
Ayala, Lamine Sissoko, Sofiane Kames, Pierre Lottin et Wabinley Dabier.
Avec cet exercice extrêmement difficile, à savoir de jouer des apprentis comédiens, donc c'est-à-dire de jouer dans le vrai des gens qui jouent mal. C'est pas évident, ils s'en sortent très très bien. Moi, je trouve qu'on ne s'ennuie pas, on est même assez ému à la fin, et assez, cette fin, évidemment, est vertigineuse, mais je peux pas en
et
dire plus.
Et puis je pense même que c'est effectivement dans l'esprit, en tout cas, je parle du sujet, assez beckettien, beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Pourquoi tu bouges, Jean-Marc?
Je sais pas,
j'ai une cocotte minute à ma droite.
On va parler de France après.
Mais à l'instant, tu parlais de Drive My Car de Hamaguchi, où on assiste à la mise en scène d'Oncle Vania. Rien n'est plus beau pour moi que le théâtre au cinéma, et ça peut vraiment donner les plus beaux films qui soient, de Renoir à Rivette, mais ça peut aussi donner les plus mauvais, comme Un Triomphe, que moi je trouve consternant. Et tu disais, Charlotte, que c'était un grand film d'auteur populaire, il faudrait vraiment se mettre d'accord sur ce qu'est un film d'auteur, parce que moi je vois vraiment pas d'auteur. Je vois la conformité à un programme de fiction feel good, où toutes les étapes sont ultra prévisibles. Il y a peu de films qui sont aussi sans surprise que celui-là. Moi je trouve ça d'une niaiserie constante.
T'avais imaginé
la fin, tu l'imagines, franchement. L'événement
mais
final, tu l'as imaginé.
Mais ça, c'est l'histoire. C'est la vraie histoire. Parce que l'histoire est exceptionnelle, mais le film ne l'est pas.
Et en même temps, tout nous dit qu'effectivement, que ça renvoie à une histoire vraie. Et en même temps, je trouve ça invraisemblable. Je ne crois pas qu'une directrice de prison assiste à un spectacle de stand-up alors qu'elle vient d'apprendre que des évadés sont partis de sa prison. Tout me semble totalement truqué. Et je crois quand même que l'adaptation est très libre et que la liberté qui est prise, elle va vraiment dans le sens de ce qui peut être le plus convenu, fédérateur. Et moi, je ne supporte pas dans le film Cadmerade. Je trouve que vraiment, son côté Saint-Bernard mono-expressif, ce registre de la sensibilité à la fois bourrue et larmoyante, je trouve que c'est vraiment un type humain à la fois convenu et pour moi vraiment assez rebutant.
Ce que j'aime chez toi toujours, c'est l'art de la nuance.
Et ben, moi, j'ai bu les paroles de Charlotte parce que je suis complètement d'accord avec elle. Je trouve que c'est une bonne surprise. Voilà, mais évidemment, il bat, mais c'est une comédie qui en a aussi du cœur. Et ça, c'est important de le souligner. Moi, les personnages, en fait, je me suis attachée à eux. Ils sont tous très attachants. D'abord, les prisonniers, qui ont tous des caractères bien différents, bien complexes. Et ce qui m'a plu, c'est que le film aurait pu tomber dans certains écueils. C'est-à-dire qu'on aurait pu revenir sur l'histoire de ces prisonniers, essayer de comprendre pourquoi ils sont en prison, etc. Et on cherche pas d'effet psychologisant à tout ça. Il n'y a pas de flashback. On est vraiment sur un fil du temps présent.
Mais parce que aussi, Étienne ne veut pas savoir d'où ils viennent. Hein.
Absolument.
C'est un choix aussi presque dramatique.
Mais tant mieux, parce que de rester fidèle au choix d'Étienne et que le metteur en scène s'y tienne aussi. Donc moi, je trouve que c'est plutôt bien écrit et j'aime en fait aussi, c'est malin de la part de Courcol d'avoir réuni différentes familles d'acteurs, des acteurs qui viennent de différents horizons. Quoi. Voilà, il y a Cadmerade, on en a parlé, que je trouve très bien, qui ne cabotine pas et qui fait vraiment corps avec tous les autres acteurs, parce que ce que raconte le film, c'est aussi l'effet de troupe, quoi, et c'est être ensemble, essayer de s'élever, et la beauté du geste, de monter cette pièce devant un public, etc., avec tous ses bras cassés, moi j'y ai été sensible, et j'ai trouvé que Pierre Lautin et Sofiane Camès étaient particulièrement formidables.
Nicolas ?
Mon énorme cœur va du côté de Jean-Marc. Non, mais je trouve que l'histoire est exceptionnelle et tout ce qui fait, j'allais dire, les moments un peu réussis du film sont viennent vraiment de l'histoire. Effectivement, cette fin qui est ahurissante, mais malheureusement, je trouve que le film banalise tout ça de manière assez terrible, avec tous les éléments de la comédie sociale. Alors oui, la comédie sociale en France, souvent, il y a des très bons second rôles et vous les avez cités, vous avez raison, parce qu'ils sont vraiment formidables. Mais moi, au milieu de tout ça, j'aurais aimé voir le plaisir des mots, ou en tout cas le plaisir du jeu, les gagner, ça à aucun moment on ne le ressent. On a droit à un montage elliptique sur une musique avec des on va dire une forme de bêtisier, tout ça est quand même un peu autodigéré.
Il y a des procédés de mise en scène d'une vulgarité inouïe, vraiment ce que décrit Nicolas.
C'est, et moi j'attendais
faire monter la musique à fond pour tout à coup faire monter l'émotion, c'est pas
possible. J'attendais d'être ému, d'attendais d'être de rire, et j'ai trouvé ça effectivement très mou, consensuel. Et alors Cadmerade, moi j'en peux plus, c'est-à-dire que c'est le pire symptôme de la Chao Pantinisation du cinéma, quoi. C'est-à-dire que depuis qu'il a eu son César pour J'ai bien ne t'en fais pas. Il se persuade qu'il est formidable en drame. Il est tout coincé, tout guindé. On a l'impression qu'il a une oreillette, qu'on lui récite son texte et qu'il le sort.
Hein?
Ah non, mais je vous assure.
Mais non, on sent de l'impro.
Mais rendez-nous le cadre de Cadet Olivier, quoi.
Il y a un truc presque d'improvisation.
Mais pas du tout.
Entre...
Il vit pas son personnage. J'ai l'impression qu'il est toujours monolithique, qu'il y a rien qui passe. Et là, le monologue de fin. Mais je l'imaginais, je sais pas, il suffit d'imaginer un autre acteur. On pourrait voir la dimension que ça aurait pu prendre. Moi, vraiment,
C'est personnel, ce que tu dis là.
C'est très personnel. Bah, c'est le ressenti que j'ai eu.
Si vous trouvez beaucoup de bonnes comédies françaises.
Après, ce n'est pas honteux. C'est pas honteux, mais
donnez-moi les titres.
Ça devrait être. Non, mais c'est pas honteux, mais ça devrait être.
Moi, je pense que Kaamelott, c'est mieux.
Ça devrait être un bon choix.
Non, je
pense que Kaamelott, c'est mieux.
Non,
je pense que Kaamelott est plus étonnant, plus vivant que ça.
Bien, je vois qu'on va parler jusqu'au bout de l'émission en bonne entente. Est-ce qu'il y a des réactions sur Un Triomphe ici dans le théâtre de l'Alliance française? Non, personne pour nous soutenir, Charlotte, Ava et moi. Je vous remercie. France, un film de Bruno Dumont, reparti bredouille et un peu patraque, il faut dire, du Festival de Cannes, où il était en compétition avec... Léa Seydoux, Blanche Gardin, qui ne fait pas non plus dans la nuance, Benjamin Biolay, on est, il faut dire, dans ce film, à milieu de Camille Claudel ou de Jeanne, même loin, je dirais aussi, de Petit Quinquin. Le film de Dumont raconte sur le mode donc de la caricature, vous le savez tous, l'ascension et la chute de France demeure, Léa Seydoux, journaliste vedette d'une chaîne Tout Info et présentatrice de l'émission Un regard sur le monde, dont l'assistante, mais elle est aussi coach, gourou, tout ce que vous voulez, et même garde du corps. Lou est jouée par Blanche Gardin, alors qu'elle se fasse mousser lors d'une conférence de presse du président Macron à l'Élysée ou sur les lieux de guerre à l'étranger où elle trafique à son avantage tous ses reportages, voire, et c'est peut-être la scène la plus effrayante au sens propre, sur une embarcation de migrants. Enfin, quand je dis sûr, à côté, France Demeure n'a qu'un objectif, être la meilleure et la première jusqu'au jour où un banal accrochage de circulation met sa vie, et surtout pour elle, sa carrière à plat. Pour soigner sa dépression, elle se retire dans un hôtel clinique très chic au milieu des montagnes et très loin de son mari écrivain qui est incarné par Benjamin Biolay. Tiens, voilà encore quelqu'un qui squatte à peu près tous les films. Et de leur enfant unique, on le plaint. Alors c'est filmé comme avec dégoût, quoi. C'est-à-dire les images sont sinistres, les couleurs sont saturées, les plans de roman photo. C'est pas un jugement, hein, c'est une de l'observation.
C'est très personnel quand même.
C'est du roman photo.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que par là, du monde pouvait pas mieux montrer sa détestation viscérale de la société, du spectacle moderne. J'oubliais parce que. Évidemment, il s'en réclame, il le dit, Bruno Dumont, dans son dossier de presse, et c'est marqué à la fin au générique, mais ça se présente comme l'adaptation de « Par-delà, un clair matin » de Charles Péguy. Péguy qui, jusqu'à preuve du contraire, n'avait rien demandé. Hein. Mais voilà. France de Dumont, on va commencer par Jean-Marc.
Je trouve le film passionnant et ce qui me j'ai le sentiment que je suis un peu isolé à cette tribune. Moi, ce qui me passionne dans le film, c'est que j'ai l'impression qu'il arrive au film à Bruno Dumont la même chose qu'à son personnage, c'est-à-dire que tout à coup une forme d'affectation. C'est-à-dire que France est un personnage extrêmement cuirassé, cynique, qui, à la suite de l'incident que tu as décrit, va découvrir qu'elle peut être affectée par le monde et elle perd tous ses moyens. Tout à coup, elle ressent une émotion vraie, alors que son travail était de feindre des émotions, et tout s'effondre autour d'elle, parce que tout à coup, elle est émue. Et le cinéma de Bruno Dumont, on sait qu'il s'était libéré par le comique, à peu près au moment de Petit Quinquin, Maloute. On part sur le registre de la farce, et ce qui est très beau, c'est que tout à coup, on va vers l'empathie, et que ce chemin de la farce à l'empathie, c'est parce qu'il tombe fou amoureux de l'actrice qu'il a devant lui, qui est Léa Seydoux, qui est géniale. Il y a vraiment une sorte de bras de fer entre une actrice qui n'est pas du tout faite pour jouer sur ce registre extrêmement grossier de la farce et un cinéaste qui essaie de la tirer contre sa nature et de la filmer contre ce qu'elle sait faire. Et à mon avis, c'est Léa Seydoux qui gagne. C'est-à-dire que le film va plutôt vers la subtilité, vers quelque chose d'extrêmement rentré, alors que Bruno Dumont la pousse sans arrêt vers le grotesque et le ridicule. Et aidé en cela par la musique très belle de Christophe et qui va dans le même sens de l'empêchement. C'est-à-dire que c'est une farce empêchée qui sans cesse est rattrapée par une émotion qui est apportée par des éléments hétérogènes comme la musique extrêmement émouvante de Christophe ou le jeu très subtil, cette espèce de cinégénie pure qui est le propre de Léa Seydoux, qui est vraiment à l'antithèse de ce que Dumont obtient en général de ses comédiens dans le registre dans lequel Lucchini était très à l'aise, par exemple Maloute. Et donc là, il y a vraiment une tension entre deux idées de cinéma que je trouve, le film est un peu une guerre entre deux idées de cinéma. Et en cela, je le trouve extrêmement vivant, passionnant. Et le titre, à mon avis, est un trompe-l'œil. C'est-à-dire que c'est finalement pas tellement un film sur la France ni sur les médias. C'est plutôt, je pense qu'il est de manière très grossière et superficielle, et que c'est plutôt un film sur ce que le cinéma peut faire d'une actrice.
Alors, ceux qui ne sont pas dans la salle, je précise, enfin, nos auditeurs, que Jean-Marc ne lit pas un texte, hein, il improvise, que tout ça est totalement libre. Nicolas.
Oui, ce film, effectivement, est une guerre, et la première victime, c'est nous. Dumont, effectivement, c'est un cinéma qui cherche, qui explore, et il faut avouer que parfois, il trouve rien. Et là, vraiment, moi, sur le papier, j'adhère. C'est-à-dire que la violence avec laquelle, la férocité avec laquelle il monte la société du spectacle, la fausseté dans laquelle on baigne tous, cette espèce de décalage du réel, cette inaccessibilité aux émotions qui a gagné, on a l'impression, tout le monde. C'est-à-dire que ça, moi, ça m'intéresse vraiment. Mais alors, le film en lui-même, c'est-à-dire qu'il y a un regard. Alors déjà, la laideur absolue du film, et alors cette fausseté, je vais utiliser un mot, Jérôme va m'embêter, mais il la travaille pas, il nous la plaque, il nous l'impose, il nous la scène ad nauseam, mais à un moment ça marche plus, le côté satirique, moi l'humour et Dumont, pour moi ça fait 4, donc déjà quand la satire, quand on veut caricaturer, il faut quand même avoir un minimum de d'humour de second degré. Là, le personnage de Blanche Gardin, pour moi, incarne toute la grossièreté là, et l'inopérant, le côté inopérant de cet humour là et alors après, le regard qu'il porte. C'est-à-dire qu'on dit, j'entends beaucoup qu'on dit que c'est une femme, voilà, qui s'ouvre aux émotions, qui, il y a une, c'est une espèce de, il y a un côté, voilà, une espèce de madone, comme ça, qui va avoir accès à, qui parfois a accès au sacré. On croit qu'elle va être sauvée par l'amour.
Jeanne qui entend
et
les
voilà,
voix.
C'est exactement ça. Il y a toujours cette idée de sacré chez Dumont. Mais, à quel moment, juste le dernier plan, effectivement, le dernier plan sur ses dos, il est incroyable parce qu'elle assiste à quelque chose dans la rue et elle passe par toutes les émotions possibles, elle ne sait pas quoi ressentir.
Le plan en contre-plongée, et ça, c'est sur son volant, et
c'est
génialissime.
Mais c'est deux.
Ah non, c'est très très fort.
Non, mais le regard de, le problème, c'est le regard de Dumont.
C'est d'une puissance inouïe.
Ce regard de jésuite misanthrope absolument atroce. Et alors, comment il filme, en plus, bien sûr, il mélange, comme d'habitude, les stars avec les vrais gens. Et la manière dont il filme ces vrais gens, qui ne sont bons qu'à demander des autographes et à attendre que la caméra tourne pendant que Christophe gémit derrière dans la bande son. Mais voilà, moi ça me tombe des yeux. Je trouve ça dommage parce que vraiment il y avait un projet passionnant, mais je trouve vraiment ce film vraiment embarrassant et très problématique.
Ava.
Ben non, mais je rejoins Nicolas. Tu parlais de masque, Jean-Marc, mais moi je l'ai jamais vu tomber en réalité ce masque. C'est vrai que j'ai pas du tout de point empathique avec ce personnage et je trouve qu'en fait il en fait. Une icône très pâle, très creuse, qui en fait presque un clown, quoi, qui est trop brushingé, qui est trop maquillé, qui est trop sapé. Et ce qui m'a presque mise en colère, parce que elle est détestable, hein, disons-le tout de suite, elle ne s'intéresse qu'à elle est absolument sourde au malheur du monde.
Le mari n'est pas mieux non plus.
Mais hein. Non, mais c'est tout ce petit monde qui est absolument dégueulasse et il se met au diapason de cette.
Il n'y a que l'appartement que je trouve assez étonnant.
Mais ce qui m'a gêné en fait avec ce personnage dont je comprends, voilà, encore une fois comme Nicolas, la critique qui est faite et tout, mais c'est qu'il pratique un genre de régime d'humiliation avec elle, c'est-à-dire qu'il la punit en permanence, elle doit éprouver, vivre des malheurs comme si c'était des plaies.
Au contraire, il cherche à l'aimer malgré tout, malgré
moi,
tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle
incarne. Cette once d'amour ressentie, au contraire, je trouve
qu'elle est... Tu ne sens pas du tout l'empathie et le moment où il est vraiment saisi par la grâce.
Je trouve qu'il la punit, il y a des scènes qu'on ne peut pas révéler malheureusement, mais l'accident de voiture, cette scène est absolument abominable. Et là, on la punit, je veux dire, on lui met vraiment le nez dedans.
Même la visite à la famille de victime est insupportable.
Mais oui, enfin, et même cette façon de filmer cette famille-ci.
La scène d'immigrant, tu ne peux pas me dire qu'il a... on a envie de crever
l'écran. Le film atteint des moments où il tabasse son personnage et où il la rachète malgré tout. Et
c'est très dur de l'avoir tabassé quand même. Moi, à un moment, ça m'a tapé sur les nerfs. Je trouve qu'effectivement, c'est du mauvais roman photo couplé à du mauvais mélo. Et franchement, de se mettre autant au diapason de la vulgarité du monde qu'il décrit, je trouve ça navrant, quoi, vraiment. Ça ne m'a pas fait rire non plus.
Alors, moi, j'étais complètement désarmée devant ce film parce qu'en fait, je savais pas à quel degré fallait le prendre. C'est-à-dire que, en dehors de la laideur absolue de l'image, tu parlais effectivement de l'attention qu'il porte au visage de Léa Seydoux. Je te l'accorde, mais alors, on peut pas dire qu'il ait la même attention pour Blanche Gardin. C'est une honte, la façon dont il filme Blanche Gardin. Non, mais c'est dégueulasse. Tu filmes pas une actrice
drôle
comme
et...
ça.
Non,
enfin, moi je trouve
efficace.
Ça vraiment, vraiment pas bien. Bref. Mais, et du coup, je vois la satire des médias. Alors, OK, les médias nous manipulent, c'est de la mise en scène. Ouais, tu parles d'un scoop, merci. On s'en doute, mais non, la férocité...
Ce qui est génial, c'est qu'il commence par faire la même chose que ce qu'il dénonce avec la scène de Macron, où tout à coup, il fait du bidouillage.
Exactement.
Et donc, d'emblée, on sait qu'on est dans un cinéma de grands pervers, en fait, et pas du tout dans un cinéma de dénonciation un peu bas du front.
Oui,
enfin,
mais
si BFM faisait des effets spéciaux aussi mauvais que ça, ils arrêteraient demain. Hein.
Et effectivement, tu as raison, dès la première scène, il utilise tout ce qu'il dénonce. Mais quand je parle de degré, c'est que je vois la satire assez féroce où on est censé rire. Moi, je n'ai pas ri, mais une seule seconde. Et on oscille constamment entre cette caricature assez lourde du monde médiatique et des gens d'en haut, on va dire, entre guillemets, et ces échappées vers le mélo sur la fin, avec laquelle je n'ai aucune empathie. Je suis comme Ava. Moi, au bout d'un moment, je n'en peux plus de ce personnage. Et ce nihilisme constant tourne à vide parce que, en vrai, finalement, il se passe pas grand-chose. C'est-à-dire que moi, je me suis vraiment ennuyée, j'ai attendu qu'il se passe quelque chose et vraiment rien du tout. Donc à l'arrivée, c'était pour moi pas drôle, interminable, inconfortable, pas aimable et très désarmant parce que je pense que Dumont est un cinéaste très...
Hein.
Non mais il est très intelligent. Je lui donne beaucoup de crédit d'intelligence, c'est un immense metteur en scène et là, je me retrouve aux antipodes de son premier film magnifique qui s'appelait « L'humanité ».
Je dois d'ailleurs la vérité
rappeler que le film
est sorti il y a 10 jours et que la presse critique était très élogieuse pour ce film depuis Le Monde qui a mis 4 étoiles jusqu'à Libération en passant évidemment par Les Arts Occultes. Donc je veux dire que ce que dit Jean-Marc reflète aussi une grande
Absolument.
Partie de la presse critique sur France de Bruno Dumont. Est-ce qu'il y a des réactions sur ce film? Oui, en haut du théâtre de l'Alliance Française.
Non, mais j'ai envie de rejoindre Jean-Marc parce qu'il y a quelque chose d'assez passionnant quand même dans le film que je trouve pas être, enfin, ce qui a pas été assez dit, c'est que la mise à distance, en fait, à chaque instant qu'il fait par l'image, ça veut dire, vous parlez de la laideur ambiante de l'image, mais en fait, moi, je trouve que à la fois, c'est une désaturation, une saturation qui est presque concentrée uniquement sur les assez doux. Et en fait, du coup, ça nous met à distance en permanence. Et du coup, c'est une dimension réflexive qui est assez intéressante. Et notamment, de voir, ce qui est assez sidérant, c'est de voir, en fait, pour la première fois, sur grand écran, une image qu'on est censé voir uniquement sur petit écran. Comme disait Godard, la télé, on baisse les yeux et devant un écran de cinéma, on lève les yeux. Et là, on est obligé de lever les yeux devant une image abjecte qui est celle des plateaux télé, toutes les abominations qui peuvent être dites sur ces plateaux-là. Là, on se les prend en pleine figure et voilà, je trouve qu'on est quand même assez sidéré. Et je trouve qu'il y a quand même des notions qui ne sont pas négligeables, notamment ça sur cet aspect de voir sur grand écran des choses assez atroces.
Merci pour votre intervention. Après Petit Paysan, Au nom de la terre, Revenir, tout récemment Louloute, et on en parlait au masque il y a 15 jours, et j'en oublie, voici sur le monde rural, toujours La Terre des Hommes, le deuxième film de Naël Marandin avec Diane Rouxel, Finnegan Oldfield, Jalil Lesper, et une fois encore, il s'agit d'une exploitation agricole au bord de la faillite. On est vraiment très proche d'une certaine réalité de ce monde-là. Constance, que je trouve formidablement jouée par Diane Rouxel, la fille de l'éleveur jouée par Olivier Gourmet, qui lui-même d'ailleurs est dans la vraie vie fils de marchand de bestiaux, je le dis parce que c'est important, décide de reprendre l'exploitation avec son fiancé, Finnegan Oldfield, et de l'orienter vers le bio, vers la qualité, vers l'éthique, et elle demande l'aide d'un grand exploitant de la région, qui est Sylvain, qui est joué... dans le rôle du salaud très bien par Jalil Lesper, qui va abuser de son pouvoir et de Constance, c'est le monde paysan d'après MeToo. Et sur le fond, en tout cas, ça fait mal. Que pensez-vous du film, Nicolas ?
Et je trouve effectivement que c'est surtout Diane Rouxel et son personnage qui tiennent vraiment le fil et le fil du film, parce que c'est le film vraiment additionne deux sujets très très actuels et très
mais qui n'avaient pas encore été traités ensemble dans ce monde agricole là.
Voilà, donc qui est effectivement la souffrance du monde agricole et le cas d'emprise sexuelle à la MeToo. Et alors avec ce programme là, on a un peu peur des facilités ou de la complaisance. Et le film est quand même assez droit dans ses bottes et file assez bien. Et vraiment, moi, je trouve, tiens vraiment sur ce personnage et sur son interprétation à elle, parce que c'est vrai que le personnage garde pour elle. Elle a ce secret-là qu'elle garde pendant tout le film. Et il y a des moments où même on se demande pourquoi elle est aussi... elle a une forme de détermination et de résignation à dire les choses qui est vraiment intéressante, parce qu'elle met du temps avant de s'ouvrir, notamment à son copain. Et ça, c'est intéressant. Après, je trouve dommage que le film manque d'un regard de cinéaste un peu assez fort et que ça reste quand même dans un naturalisme. C'est consciencieusement fait, c'est bien écrit, mais ça dépasse jamais le plan séquence naturaliste avec des bons acteurs et qu'il manque un regard un peu plus fort pour que tout ça, pour que la sauce prenne et que le film dépasse un peu ses sujets. Quoi.
Charlotte,
non, je comprends pas tout à fait les réserves de Nicolas parce que tu parles d'absence de mise en scène, mais effectivement.
Non, j'ai pas dit absence de mise en scène. J'ai dit qu'il y avait un regard ça manquait d'un regard fort de cinéaste qui dépasse ce côté très naturaliste de la mise en scène.
T'aurais voulu Kaamelott quoi dans la mise en scène.
Non, mais il y a un peu plus de souffle ou alors d'ambiguïté ou de pas de côté quoi.
Ouais, moi je trouve que de l'ambiguïté il y en a, c'est-à-dire le film il est pas du tout manichéen parce que elle cette Constance ça interroge le consentement. C'est pas parce qu'on crie pas qu'on dit pas non qu'on est consentant pour autant. D'ailleurs elle y retourne parce qu'elle a besoin de lui, tout son avenir professionnel et de vie est entre les mains de cet homme, et donc je trouve que le film décrit très bien les mécanismes d'enjeu de pouvoir. C'est finalement un film sur la prédation
ailleurs,
oui. Complètement, mais c'est un film quand même sur la prédation, c'est la prédation des terres et des individus qui se trouvent dessus, et encore plus facilement quand il s'agit d'une jeune fille. Effectivement, on a beaucoup vu le monde rural et agricole au cinéma ces derniers temps, avec les difficultés économiques pour chacun, mais des sortes de résolutions différentes. Et là, c'est la première fois qu'on voit à quel point le patriarcat, le sexisme est encore extrêmement présent dans ce milieu-là, même si on sait qu'il tend à se féminiser aujourd'hui. Diane Rouxel est absolument épatante. Et moi, je trouve que ces longs plans séquences, justement, ils sont extrêmement forts. La scène de l'abus, en l'occurrence, fait quasiment 8 minutes en plan séquence. Je la trouve vraiment glaçante et si on salue tous Diane Roxel, je trouve aussi que Jalil Lespère, dans un rôle extrêmement difficile, est absolument formidable. On pense à Slalom, bien évidemment, avec la même jeunesse d'entraînement.
Justement parce que c'est complexe et parce qu'il y a des zones d'ombre et parce qu'il y a des nuances.
Un regard plus fort, je trouve, de cinéaste. Ben,
moi, je l'ai senti, en tout cas, ce regard. J'ai été en permanence à côté, aux côtés de Constance, qui est un personnage qui garde tout le temps la tête haute, quoi, qui est hyper digne, qui est droite plantée dans le sol. Et c'est très intéressant parce qu'elle va décider, en fait, le film va changer d'allure et l'histoire de braquer à partir du moment où elle va sortir du silence que lui impose le prédateur, donc voilà, Sylvain. Et à partir de ce moment-là, elle va plus se laisser imposer des lois, mais elle va les imposer. Et les méthodes qu'elle va employer, effectivement, c'est là que ça devient complexe et c'est là où le film, je trouve,
parce qu'elle retourne les armes.
Exactement. Et le titre, du coup, du film devient très intéressant à cet égard, puisque la terre des hommes, c'est celle qui est cultivée par la main de l'homme, mais c'est aussi sur laquelle les hommes continuent à régner en maître. Et évidemment, le personnage de Constance, eh bien, voilà, va faire l'expérience de la violence, l'expérience de l'emprise, et va essayer de retourner ce système et ce rapport de force et d'autorité à son avantage. C'est un personnage magnifique.
Tout ça,
et le film...
tout ça dans un monde qui périclite et qui est, exactement, qui est constamment en péril.
Oui, et ce n'est pas un film dossier de l'écran, hein, vraiment, c'est film de cinéma, avec une mise en scène extrêmement tenue, extrêmement sobre.
Il n'y a pas de regard moral, c'est-à-dire que la manière dont elle va s'en sortir n'est pas forcément ce qu'on peut recommander à tout le monde. Enfin, c'est-à-dire il y a quelque chose de véritablement de la vie, elle fait ce qu'elle peut pour rester debout, même si c'est pas forcément les moyens qu'on aurait voulu lui mettre entre les mains. C'est obscur, Jean-Marc, ce que je dis, mais ce que je peux pas révéler.
Ouais, je vais aller assez vite parce que j'ai pas grand chose à ajouter. Je pense que le film, effectivement, pour moi, se gagne sur la scène du viol, où je trouve que le film réussit tout à coup à mettre en lumière, de la lumière sur ce qu'on appelle la zone grise, c'est-à-dire cette zone de non-consentement où les choses n'arrivent pas à s'exprimer. Et je trouve que, en restant totalement sur le personnage de Diane Roxel, en ne quittant pas son visage, son corps, son body language, voir comment il y a une emprise sur elle qui fait qu'elle ne peut pas se libérer, mais qu'elle ne peut pas non plus exprimer nettement un refus en repoussant simplement Gilles Lespère, ça, c'est vraiment un moment de cinéma assez fort. Et la deuxième réussite du film, à mon avis, c'est de finalement retourner le personnage et elle-même devient du côté des prédateurs, puisqu'elle va quand même utiliser l'abus dont elle a été victime pour obtenir ce qu'elle veut conquérir socialement, et qu'il y a quelque chose qui est quand même moralement discutable dans ce qu'elle fait, et ça, c'est intéressant. Après, moi, j'entends aussi ce que dit Nicolas, c'est-à-dire que je trouve que le film appartient à une vanne du cinéma français qui serait le naturalisme discursif, qui est un peu inféodé.
Naturalisme discursif.
Ouais, c'est une expression que j'ai forgée comme ça.
Jean-Marc ne lit rien, il improvise tout.
C'est-à-dire que c'est un naturalisme au service d'un discours, et j'ai l'impression que le film n'est jamais beaucoup plus que l'exposé de son discours, même si son discours m'intéresse beaucoup, que je trouve qu'il est bien mis en scène et que le film est réussi, je trouve effectivement qu'il manque une ampleur de regard, et je pense qu'il y a plus de cinéma, plus de contradictions dans le film de Bruno Dumont que dans ce film-là, par exemple.
Mais tu traverses quand même une expérience, t'es quand même dans l'expérience de Constance, et ça...
Ce que dit le film m'intéresse beaucoup, et en même temps, je trouve que le film n'est pas beaucoup plus que ce qu'il dit, alors que ce que j'attends d'un film, c'est qu'il soit beaucoup plus que ce qu'il dit.
La Terre des Hommes, c'est signé Naël Marandin. Chers camarades, avec un point d'exclamation, c'est 2 ans après Michel-Ange, le 22e film dans un très beau noir et blanc et un format 1.33 du vétéran russe Andrei Konchalovsky, 83 ans, avec Julia Vysotskaya, Vladislav Komarov, Andrei Guzev et beaucoup d'autres. On est en 62 dans l'URSS du camarade Khrouchtchev. Le stalinisme est mort, mais le communisme lui ressemble beaucoup, et dans une ville située à 1000 km au sud de Moscou. Les ouvriers d'une usine de locomotives se mettent en grève pour obtenir un meilleur salaire. Leur révolte va être réprimée avec une violence inouïe, puisqu'il y aura eu dans la réalité 26 morts et une centaine de blessés. Violence qui vient pas de l'armée, à laquelle on veut faire porter le chapeau, mais au KGB et à ses snipers qui étaient postés sur les toits de la ville. Une répression que le pouvoir va tenter de dissimuler. D'ailleurs, il faut savoir qu'elle a été gardée secrète jusque dans les années 90. Histoire donc parfaitement authentique de ce massacre qui est raconté par Lyudmila, c'est donc Julia Vysotskaya, une cadre très obéissante, on le voit au début du film, du parti communiste local, dont les idées vont d'autant plus évoluer que sa fille faisait partie des manifestants. Évidemment, Konchalovsky raconte beaucoup de choses qui tiennent aussi à sa propre histoire, à celle de son père, je vous rappelle, Sergueï Miralkov, qui a obtenu le prix Staline, qui avait écrit les paroles de l'hymne national de l'Union soviétique. Ava.
Ben, moi, j'étais très impressionnée, hein, vraiment, par le film. On parlait de naturalisme tout à l'heure. Là, c'est vraiment un réalisme très, très brut, quoi. Le format du film 1:33, le noir et blanc, qui est vraiment sublime et en même temps qui tranche, mais radicalement, avec l'horreur, les horreurs dont parle le film. C'est un film raide, c'est un film difficile. On adopte le point de vue, justement, de cette femme, Ludmila, qui, comme vous le disiez, est quand même pro-stalinienne, voilà, nostalgique de ces années-là.
On la voit évoluer tout au long du film.
Tout à fait. Ouais, et elle évolue, à partir des deux tiers. La première partie, on la voit
c'est
parti, complètement dévouée. Absolument.
Exemplaire.
Et c'est parce que sa fille manifeste avec les ouvriers et qu'elle se rend compte au moment même où elle entend effectivement les balles qui fusent, là, elle se jette à corps perdu dans la foule, elle va sur le terrain pour aller chercher sa fille et la quête de la fille de Ludmila va occuper les deux tiers du film. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il montre effectivement comment, la prise de conscience d'une partisane, quoi, la lutte qu'elle fait avec elle-même, comment tout d'un coup elle va se rendre compte que ce système est tout à fait barbare. Il y a une séquence absolument horrible où on voit un soldat qui explique en gros qu'il reste du sang qui a coagulé encore sur l'asphalte, quoi, que le sang des morts, on ne peut pas le faire disparaître, alors que le mensonge d'État est là.
C'est vraiment une scène géniale.
Et voilà, on demande de remettre une couche d'asphalte sur l'asphalte. C'est affreux, c'est dire vraiment l'inhumanité de tout ça. Et à partir du moment où elle comprend ça, c'est là que le film bifurque et que ça devient très dense et
puis c'est
très
la première fois que je vois un film sur cette période-là et sur l'Union soviétique où on voit l'armée dépassée par les agents du KGB, c'est-à-dire qu'ils sont presque, il y a une scène d'ailleurs presque de tribunal où les généraux paraissent presque gentils à côté des snipers. Nicolas.
Oui, c'est pour moi un des deux plus beaux films de cette programmation. Vraiment, c'est étonnant qu'à 83 ans, Kanchelovski arrive, alors que son frère Mikhalkov, lui, est perdu chez Poutine et qui tourne plus, d'arriver à faire des films aussi amples, aussi forts, aussi...
Mikhalkov a fait des beaux films, faut pas non
oui,
plus.
Oui, j'ai dit qu'il était aujourd'hui perdu chez Poutine. Oui. J'ai pas revenu sur ces. Non, je parle d'aujourd'hui. Non, de faire des films aussi. C'est-à-dire qu'à la fois la mise en scène est vraiment impressionnante dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il a toujours, il y a un sens du cadrage hyper affûté. Il est toujours au bon endroit et en même temps chaque cadre a un sens. Le noir et blanc est vraiment très beau. Alors je sais pas pourquoi les noirs et blancs des films sur le communisme dans les 60, les films sur le communisme dans les 60 comme par exemple on avait vu le film qui était à Cannes il y a trois ans, qui me revient pas là tout de suite.
Pavlovski,
le film de Pavlovski, exactement. Il y a un systématisme du 1:33 et du noir et blanc sur les films de cette époque.
C'était en Pologne, c'était en Pologne, mais
c'était sur les régimes communistes, je veux dire. Et il y a un systématisme. Pourquoi sur 1:33? Je ne sais pas, mais alors ça.
Mais l'addition du 1:33 et du noir et blanc.
Noir et blanc,
c'est très fort.
Ça donne un très beau,
affûté comme ça, très et puis presque tableau. Comme la manière dont il filme le massacre est très intelligent. Il y a des moments, on dirait presque du Spielberg tellement c'est. Il y a un sens du.
Avec moins de moyens parce qu'on voit pas. Mais les foules ne sont pas extensibles, si j'ose dire.
Oui, mais un lyrisme, malgré
un vrai lyrisme.
Et tout ça, chez Spielberg.
Voilà. Et tout ça passe à travers le regard de cette femme qui est vraiment bouleversante, parce qu'au début, elle sort d'un lit, il y a comme ça quelque chose de très sensuel, et on a l'impression d'être dans la bourgeoisie communiste. En fait, on comprend que c'était elle couchait avec son amant. Et puis, comment cette femme se délite, même physiquement, petit à petit. C'est vraiment un vraiment très beau film.
Charlotte.
Oui, c'est un film absolument magnifique, mais c'est le trajet d'une désillusion, en fait. C'est une désillusion politique vécue par l'instinct d'une mère, qui est fissurée par l'instinct d'une mère. Moi, ce que je trouve très beau aussi dans le film, c'est le climat de peur, c'est-à-dire la peur, la suspicion de tout le monde, que ce soit les manifestants ou même les cadres du parti qui eux-mêmes ont peur de l'armée. Et cette femme, quand elle cherche sa fille, ce qui est incroyable, c'est qu'elle ne peut demander de l'aide à personne de peur d'être dénoncée, parce qu'au fond, elle sait qu'elle-même, elle aurait été la première à dénoncer si un voisin cherchait aussi son enfant en manifestant. Donc elle se retrouve véritablement seule au monde.
Et dont le père est un émule du stalinisme, et qui est considéré comme un paria par les cadres de Khrouchtchev.
On a parlé du noir et blanc, tu demandais, Nicolas, pourquoi il était si beau. Moi, il y a quelque chose qui m'a assez saisi sur certains plans, c'est que il y a le noir de l'obscurité, des ténèbres, du propos de ce qu'on nous raconte, et en même temps, il y a toujours un ray de lumière. Il y a toujours une face très lumineuse, comme une lueur d'espoir, et jusqu'à la fin du film, qui est magnifique. Et moi, je voudrais rajouter le travail du son. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un son très particulier, qui n'est pas du tout naturaliste. Je pense que ça a été refait en studio où on entend des éléments extrêmement distinctement. Il n'y a pas de son d'ambiance. Et la seule musique qu'on entend est une musique diégétique d'un petit poste de radio dans un salon de coiffure au moment du fameux massacre. Et c'est absolument bouleversant.
Jean-Marc.
Moi, j'avais très peur au début de l'idée du pastiche et de plonger dans le régime soviétique des années 60 en reproduisant l'esthétique de l'époque, le noir et blanc, le format le carré. Et c'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'il réussit à rendre vivant le procédé. Il y a un classicisme vraiment à l'antipode de l'académisme qui fait que le film est incarné tout le temps. Et ce que tu disais très juste sur les blancs et sur la lumière, il est toujours au bord de la surexposition. Les plans sont irrigués de lumière et c'est très très beau. Mais déjà Michel-Ange, qu'on avait vu il y a 2 ans, et de Kончаловский, était vraiment un très beau film. Et c'est quand même une trajectoire de cinéma inouïe que celle de Kончаловский. Il fait des films depuis 60 ans. Il a écrit les premiers Tarkovsky. En même temps, il a réalisé un film d'action avec Sylvester Stallone. Il a fait des films à Hollywood. On l'avait totalement perdu de vue. Et là, en 2 films, Michel-Ange et celui-là, je trouve qu'il revient en pole position du cinéma d'auteur mondial à 84 ans. C'est assez incroyable.
Chers camarades, on vous le conseille tous, le nouveau film de Andrei Kончаловский. On va aller un peu plus vite parce que l'émission va bientôt se terminer. Je voulais qu'on évoque Leila Haïfa, le nouveau film en compétition à la dernière Mostra de Venise de l'Israélien Amos Guitar, qui retrouve ici sa ville natale. Le film s'ouvre par un tabassage en règle d'un photographe devant l'entrée d'un club, le club Fatouche, qui est situé le long d'une voie ferrée. C'est un peu étrange comme situation et comme atmosphère. Et dans ce refuge se retrouvent des noctambules de toutes origines qui refusent d'être enfermés dans des catégories toutes faites. Alors il y a les hétéros, il y a les gays, il y a les Israéliens, les Palestiniens, les jeunes, les vieux. Ici, on s'aime sans frontières ni tabous. On boit beaucoup, on parle hébreu, arabe, anglais, on expose des photographes engagés, on danse et on refait bien sûr la politique d'Israël, un monde parallèle que Guitar nous présente dans une mise en scène très théâtrale, je trouve.
Oui, mais dans le mauvais sens du terme.
Oui, mais c'est pour ça que je le précisais avant, mais tu sais bien que je ne juge pas moi. Et à travers le regard de 5 femmes affranchies, manière de dénoncer que ce que dit Guitar dans le dossier de presse, c'est que le Moyen-Orient est dominé par des hommes qui, eux, encouragent la guerre et les conflits, ce qui n'est pas le cas des femmes, oui. Donc, Charlotte...
En fait, je vais reprendre l'expression de Jean-Marc. C'était quoi ? Naturalisme discursif, c'est ça. Bah, là, c'est un summum, quoi. C'est-à-dire que les personnages ne sont réduits à leur discours. Ils ne sont que leur discours et leurs phrases qui leur tombent des seins comme ça.
Ou leur posture, parce qu'ils ne parlent pas tous.
Mais c'est un peu anti-naturaliste, par contre.
Mais du coup, c'est anti-naturaliste. Ok, donc c'est pas tout à fait...
C'est l'antinaturalisme discursif.
C'est le théâtralisme discursif. On va dire théâtralisme discursif.
En tout cas, c'est un film de dispositif et qui, pour moi, n'est pas du tout incarné. Malgré, il y a quelques jolies scènes quand même avec des très jolies comédiennes, mais c'est théâtral dans le mauvais sens du terme. On s'ennuie. Enfin, moi, en tout cas, je me suis ennuyée prodigieusement et je ne comprends pas bien ce film qui n'est autre qu'un bout à bout.
On n'a pas très envie d'aller au club Fatouche.
Pas vraiment.
Pour aller danser, mais pas pour aller bavarder avec ces gens
extrêmement théoriques.
Ava veut aller y danser.
Non, mais après, le film m'a quand même déroutée et je n'y trouve effectivement pas non plus mon point d'entrée dans ce monde. C'est le rythme, en fait, aussi, qui est terriblement lent. C'est très nonchalant. C'est un film choral, donc on prend le temps de nous présenter différents personnages qui ont tous au cœur collé des ressentiments, de l'amertume. Et donc, voilà, on comprend bien que Guitar essaye de créer un lieu refuge, d'organiser des moments de pause où il va y avoir plus d'amour que de haine qui va circuler. Mais je suis d'accord avec Charlotte, ça reste très théorique. Hein. Oui, voilà. On flirte avec les codes du mélo et avec du soap aussi, mais on n'y tombe pas complètement. Enfin bon, le film est déséquilibré, mais les acteurs sont plutôt bons, je trouve.
Nicolas ?
On dirait du théâtre subventionné où les acteurs viennent passer une audition. C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème de dramaturgie. C'est-à-dire que je pense que le Guitar ne la cherche même pas. Il met ses idées dans la bouche des acteurs. Il passe d'une idée à l'autre, d'un acteur à l'autre, de manière comme ça un peu aléatoire. C'est très théâtral. Alors, la manière de filmer est moins théâtrale. C'est vrai qu'Éric Gauthier, il y a des moments très sensuels et dès que ça parle pas, ça devient sensuel et ça devient vraiment intéressant. Et là, on retrouve un peu le rapport de Guitar comme ça au physique des acteurs et tout ça. Mais sinon, moi, il m'en reste rien et j'ai juste envie d'aller faire un petit tour au club, quoi. Ouais.
On ira ensemble à la BNF parce que c'est jusqu'au 7 novembre qu'il y a toujours autour du film de
détail sur l'assassinat de Rabin à Tel Aviv, le dernier jour d'Isaac Rabin, il y a toute une exposition qui est formidable.
C'était d'ailleurs un très beau film. Il faut dire
absolument.
Que Guitaï a quand même réalisé de très beaux films. C'est un cinéaste assez inégal et celui-là est effectivement raté. Plus qu'au théâtre, c'est vraiment au soap que ça fait penser. On a l'impression que ça se passe un peu dans la cafétéria de Friends ou d'Hélène et les garçons.
Sauf
que les personnages, tout à coup, dans soap, ne parleraient que de géopolitique.
D'autant qu'il y a des grandes
Tout à coup, on interrompt une histoire, on en reprend une autre. Vraiment, à la. La construction,
c'est un moment
de l'alcool au lieu des cafés.
On la trouve pas, on est un peu déçu. Non, voilà. Mais, alors, ça parle de géopolitique, mais que sur le mode de la considération générale. Ouais. Et le film échoue complètement à incarner quelque chose de son point de vue sur Israël aujourd'hui. Et, c'est vraiment problématique.
Laïla in Haïfa, c'est Amos Guitaï. Et puis donc, encore plus vite, une histoire d'amour et de désir de la Tunisienne Leïla Bouzid, un film qui était présenté en juillet dernier à la semaine de la critique à Cannes, avec une histoire que j'ai trouvée très émouvante entre Ahmed, un Français d'origine algérienne élevé dans une cité. C'est Sami Outalbali qui tombe fou amoureux sur les bancs d'une fac de lettres parisienne, d'une jeune Tunisienne avec une chevelure explosive, on dirait Charlotte Lipinska, Farah, qui débarque de Tunis et qui est jouée par Sbeda Bella Jamor. Une rencontre qui inspire d'autant plus Ahmed qu'il découvre à la fac où sa prof... est jouée par Aurélia Petit, la plus sensuelle et érotique des littératures arabes. Donnez-moi une raison d'aller le voir, ce que j'espère, ou de ne pas aller le voir, Jean-Marc.
Alors, je suis pas sûr que je sois la meilleure personne pour commencer, parce que moi, je suis assez réservé sur le film, que je trouve à la fois sensible, délicat, juste, mais sans tellement d'autres horizons que sa justesse. Et là, encore, je trouve ça un peu étroit comme idée de cinéma. Donc, je laisse parler ceux qui aiment ça.
Ava.
Juste une séquence, par exemple, juste pour donner envie, parce qu'elle arrive quand même, Leïla Bouzid, à mêler à la fois l'érotisme, la sensualité, des mots, des corps. Il y a une scène magnifique où on voit un dos, une colonne vertébrale et une plume juste remonter le long de cette colonne vertébrale et marquer à l'encre ce dos. Et voilà, rien que ça, cette façon de filmer le papier comme de la peau, la peau comme de le papier, je trouve ça très beau.
De bout en bout.
Et les deux acteurs sont fabuleux, fabuleux.
Nicolas.
Oui, je rejoins assez. Pour moi, c'est l'autre beau film de cette programmation.
J'ai eu peur.
Je rejoins Ava en comprenant la réserve de Jean-Marc, mais vraiment, c'est un film qui mélange à la fois cette idée de la littérature, et c'est vraiment beau aujourd'hui, je trouve, de parler de la tradition érotique dans la littérature arabe et de mettre ça dans la bouche de ces jeunes acteurs. Et ça, c'est vraiment beau, et ça
qui
rejoint.
Qui vient en plus de deux mondes totalement opposés.
Voilà. Elle qui vient de Tunisie et lui qui a grandi dans une cité en France. Et ça, c'est vraiment beau. Et la manière, j'allais dire parfois peut-être un peu trop posée, un peu scolaire dans tel film, les dialogues, ça va, c'est pas grave parce que la sensualité, elle passe par les mots. Et à côté de ça, il y a des moments justement des échappées de pure sensualité de mise en scène. Et c'est là où le film trouve sa cohérence. C'est-à-dire, entre ce récit d'apprentissage, j'allais dire assez scolaire puisque ça se passe dans le milieu de la fac, à la Sorbonne, et en même temps, ce personnage qui se décoince,
c'est beau de voir comment elle
filme le corps derrière un paravent au début de cet homme qui n'assume pas son désir et son corps, et à la fin je regrette juste le regard final qui n'était pas utile.
Charlotte,
moi je trouve que c'est un film merveilleux, très gracieux, délicat, qui a beaucoup de pudeur et sans être pudique pour autant, et c'est vrai que c'est l'éveil à la sensualité d'un jeune garçon, ce qu'on voit quand même très rarement au cinéma, souvent quand même la première fois, ou ça c'est souvent des jeunes filles, on le voit rarement déjà pour un garçon, et c'est comment il va être éveillé à sa sensualité par les mots, mais avec deux portes devant lui, il y a la tête et le corps, c'est l'intellectuel et le charnel, et tout le récit initiatique va être de coordonner les deux pour s'ouvrir à cette jeune fille, et je trouve ça extrêmement sensuel, délicat, très tendre et très beau.
Et de la part
de
Leïla Bouzid, c'est assez courageux.
Une grande douceur.
C'est un film assez courageux. Et je précise aussi que ce film-là était donc à la semaine de la critique, mais avant qu'Ava Kaen n'en devienne la patronne.
C'était le film de clôture de cette année.
C'était le film de clôture, oui. Absolument.
Et il vient de remporter le grand prix au Festival d'Angoulême et le prix d'interprétation pour Sami Outalbali.
Le temps est venu des conseils. Alors, en dehors de France que tu peux conseiller qu'on aille revoir. Qu'est-ce que tu nous proposes, Jean-Marc ?
Un film d'action américain passé un peu inaperçu qui s'appelle Réminiscence avec Hugh Jackman, réalisé par Lisa Joy, qui était la showrunneuse de la série Westworld sur ce parc d'attractions composé de robots. Et c'est un film de science-fiction et en même temps un film noir très classique, mais dans un univers post-apocalyptique. C'est vraiment un film d'action extrêmement imaginatif et très prenant.
Tu rappelles le titre ?
Réminiscence de Lisa Joy.
Le conseil de Charlotte.
Alors, moins d'action et un peu plus de délicatesse, c'est Petite danseuse, un documentaire de Anne-Claire Dolivet sur ces petites filles. Elles ont entre 6 et 10 ans et elles sont passionnées de danse classique. Et le film est très attachant parce que d'abord, c'est assez joli de voir une passion aussi forte chez des gamines vraiment toutes petites. Hein. Elles ont 6, 7, 8 à peine. Et quand on sait ce que cette passion exige, quoi, c'est-à-dire des entraînements quotidiens, ah oui, la douleur.
C'est de la tyrannie quand même.
Hein. Et oui, c'est l'amitié qui est mise à mal par la concurrence avant les concours, le stress et l'émotivité qu'il faut savoir gérer, et tout ça sous la houlette d'une professeure assez redoutable, à vrai dire, qui est à la fois bienveillante et très exigeante, qui leur dit « tu vas en baver ». Effectivement, elles vont en baver, et on voit à quel point l'ego des professeurs est lui aussi mis en jeu lors des concours. Voilà, c'est pas un grand documentaire de cinéma, mais si vous avez autour de vous des petites filles passionnées par la danse classique, c'est vraiment très attachant, très délicat, et avec ce rêve commun qu'elles ont toutes, évidemment, rentrer à l'Opéra de Paris et qui serre le cœur parce qu'on sait que peut-être il y en a une sur 100 qui y parviendra.
Et le titre ?
Petite danseuse.
Je remarque d'ailleurs qu'il y a de plus en plus de documentaires.
Oui, il y en a beaucoup en ce moment.
Chaque semaine. Le conseil d'Ava.
Moi, c'est un film qui m'a complètement envoûtée. Ça s'appelle La Nuit des Rois. C'est de Philippe Lacôte. Ça se déroule dans une prison à Abidjan, une prison qui est surpeuplée.
Aujourd'hui,
où les gardes n'ont absolument plus aucune autorité sur les détenus. C'est d'ailleurs un détenu qui fait la loi dans cette prison. Et en fait, son règne est en train...
Il joue du Beckett.
Voilà. Pas loin, mais on peut y voir quelque chose de cet ordre-là. Non, vraiment pas. Mais voilà, le pouvoir, en tout cas, est en train de vaciller. Et donc, il va renouer ce détenu roi avec le rituel du roman qui consiste donc à élire un prisonnier et à ce que ce prisonnier raconte une histoire toute une nuit aux détenus. Et donc c'est un film magnifique, extrêmement inventif sur le pouvoir des mots, sur le pouvoir de l'imagination, comment on la stimule. Et puis ça rend hommage à la culture ivoirienne où les frontières entre le réalisme, la magie et le fantastique sont complètement poreuses, quoi. Donc voilà, moi j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce film et cet acteur qui joue le roman, ça fait tout de suite penser au titre de Shakespeare, évidemment, La Nuit des Rois. Il s'appelle Bakary Koné et c'est une révélation. C'est en salle le 8 septembre et ça a eu le Valois de la mise en scène au dernier festival d'Angoulême.
Il y a tout maintenant à Angoulême, j'ai l'impression. Oui. Le conseil de Nicolas.
Alors moi, désolé, c'est pas de la salle, c'est du DVD, mais en même temps, c'est un vrai acte militant.
Non, mais les gens à aller en salle.
Oui, mais alors c'est un acte militant, j'allais dire anti-plateforme d'une certaine manière, c'est-à-dire que ressortent une première vague de 8 titres de la collection Studio Ghibli, dont 3-4 chefs-d'œuvre de Miyazaki, donc Studio Ghibli. Le grand studio japonais d'animation et donc là la première vague comprend notamment Le Voyage de Chihiro, Princesse Mononoke, Mon Voisin Totoro, trois des grands chefs-d'œuvre de Miyazaki. Alors c'est très bien parce que c'est la rentrée et qu'il va falloir montrer aux enfants des belles choses, et aussi parce que il y a à peu près un an Netflix a mis le catalogue Ghibli en ligne, et moi j'en en peux plus des gens qui me disent mais maintenant tout est disponible sur les plateformes, n'achetons plus de DVD. Ben non, parce que ces films ne sont plus en partie disponible sur Netflix parce qu'il y a des questions de droit, que c'est disponible pendant un certain temps. Donc c'est pour ça qu'il faut défendre l'idée d'acheter des DVD, parce que c'est le seul moyen d'être sûr de pouvoir montrer ces films-là et ces chefs-d'œuvre que sont les films de Studio Ghibli et de Miyazaki en particulier à ses enfants.
Et puis l'année que nous venons de vivre, voilà, où le masque s'est mis à l'heure du DVD, voilà, a montré à quel point le choix était varié, riche, original. Donc tu as eu raison.
Merci.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup à Ava Cohen, Charlotte Lipinska, Jean-Marc Lalanne malgré tout et Nicolas Chalère pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam à la technique ce soir au théâtre de l'Alliance Française. Il y avait, et je les remercie, Cédric Chatelus, Nicolas Depagraf ainsi que Kevin Delcourt
pour une réalisation signée Xavier Pestugia. Notez bien que le prochain enregistrement du Masque, eh bien, il aura lieu vendredi prochain, vendredi 10 septembre. Ce sera à partir de 20h à l'Opéra de Lorraine à Nancy, à l'occasion de la 43e édition du Salon du Livre sur la place, pour deux émissions, l'une évidemment consacrée au livre et l'autre au cinéma. Donc dans une semaine, on parlera à Nancy de livres, et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.